savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin.
Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons, écrivait Victor Hugo. L'institution scolaire comme ouverture au monde, espace indispensable d'émancipation et d'apprentissage, lieu éminemment cinématographique. On en parle ce samedi dans tous les cinémas du monde, à l'occasion de la sortie en salle de deux documentaires. Bonjour Claire Simon.
Bonjour.
Apprendre, c'est le titre de votre nouveau long métrage avec lequel vous nous emmenez dans une école primaire de banlieue parisienne. Et bonjour Hélène Milano.
Bonjour.
Vous êtes allée dans un collège et plus précisément au niveau 3e du collège de Château-Rouge, un quartier de Paris. Vos deux films montrent deux facettes à la fois différentes et complémentaires, solaires ou plus tourmentées, de l'école qui, selon les niveaux, selon d'où on la regarde, peut être un formidable espace d'inclusion comme une machine impitoyable de tri. À l'affiche également de notre cinéma ce samedi, l'hommage rendu à Dakar, à Djibril Diop Mambéty, et puis le reportage de notre confrère Denis Strelkov qui revient de Sundance où il a assisté au grand rendez-vous du cinéma indépendant américain. Mais tout d'abord, on retourne sur les bancs de l'école.
Bonjour à tous.
Bonjour maîtresse Sophie.
Vous allez bien?
Oui.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour maîtresse Sophie.
Comment vas-tu?
Oui, très bien.
Super. Bonjour Yanis.
Bonjour maîtresse Sophie, ça va très bien.
Super. Bonjour Massia.
Bonjour maîtresse.
Comment vas-tu?
Bien.
Tu peux enlever ton gilet, ma grande, il fait chaud. Hein. Bonjour Chek.
Bonjour maîtresse, comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Et toi?
Ultra bien.
Super. Enlève ton gilet aussi, il fait chaud.
On commence avec les plus petits et avec vous, Claire Simon. Ce n'est pas la première fois que vous entrez avec votre caméra dans ces lieux, une école, un lieu à la fois familier et mystérieux. Il y avait eu Récréation en 1992, on était petite souris dans une école maternelle. Dans le concours en 2017, vous nous faisiez pénétrer dans les coulisses des épreuves de l'école de cinéma à la Fémis. Vous avez aussi filmé des lycéens dans Première Solitude. Cette fois, vous nous emmenez dans une école élémentaire, et peut-être pas n'importe quelle école élémentaire, Anton Makarenko à Ivry-sur-Seine. Comment vous l'avez choisie, cette école?
J'ai cherché et j'ai trouvé cette école. J'avais un très bon souvenir d'Ivry à cause de Première Solitude où j'avais tourné au lycée Romain Rolland. Mais j'ai visité d'autres écoles à Paris et en banlieue. Mais je cherchais une école de banlieue.
Et pourquoi? Pour l'accueil?
J'avais envie d'une école moderne et d'une école où les enfants ne sont pas de classe sociale trop élevée, quoi. Et Makarenko m'a paru vraiment très, très intéressante. D'abord physiquement, parce que c'est une école très moderne, physiquement, qu'elle est jaune et orange au milieu d'un décor tout gris, que la cour est très grande. Et puis, j'ai rencontré le directeur et je l'ai trouvé exceptionnel. C'est une école où il y a une très grande majorité d'enfants d'immigrés. Et ce qui est très beau, c'est que dans cette école, eh bien, ils se sentent bien.
Ils se sentent bien et on l'entend d'ailleurs, on l'a entendu. Les premiers mots de la maîtresse, comment vas-tu? On a presque l'impression d'un apprentissage à l'empathie.
Oui, en tout cas, oui. C'est, chaque enfant existe. Chaque enfant a sa vie et il est rassuré ou elle est rassurée que dans l'école, on va s'occuper de chacun et de chacune, que leurs individualités vont avoir la place d'exister. Et ça, c'est très beau, quoi.
Et vous, Hélène Milano, vous avez choisi le collège à Château-Rouge. Donc, c'est un quartier très populaire dans un Paris intramuros, mais enfin au nord de Paris. Pourquoi un collège et pourquoi ce collège ?
Alors, pourquoi un collège ? J'avais fait deux films précédemment, un qui s'appelle Les Roses Noires, qui est un film que j'ai consacré que à des jeunes filles dans des quartiers populaires, Marseille et banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai voulu faire un film que avec des garçons. Et j'ai été, suite à une résidence d'artiste en Bretagne Centre, j'avais été très touchée par ces jeunes gens en lycée professionnel qui avaient déjà un pied dans le monde du travail. Et donc, j'ai tourné en lycée professionnel. Et là, j'ai vraiment senti, outre la très grande solitude dans laquelle je les sentais, qui résonne avec première solitude, il y avait aussi ces cicatrices, ces blessures que je sentais qu'ils portaient de ce moment précédent au collège, quand il y a effectivement au moment de l'adolescence cette injonction à déterminer un chemin quand on est à peine jeune adolescent. Et puis, il se trouve que moi, en fait, je partage la vie d'un homme depuis 30 ans qui a d'abord été instituteur dans les quartiers nord de Marseille, puis ensuite directeur d'école, puis ensuite principal adjoint. Et il a travaillé 2 ans dans ce collège. Et il m'a présenté cette très belle équipe. Et moi, je voulais continuer à mettre en lumière les quartiers populaires, continuer à creuser mon sillon et à mettre toute la lumière sur les différentes histoires, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'histoires différentes. Mais il y a aussi une histoire systémique qui, évidemment, est remontée au fur et à mesure du tournage.
Ça sert à rien à l'école. C'est-à-dire, si on n'est pas fort en physique-chimie, en français, en histoire-géo, en mathématiques, on n'est pas intelligent. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Moi, je le sais, mais il y a des gens, ils ne le savent pas, et en tout cas, ils vont le découvrir plus tard. Moi, je l'ai découvert assez tard, hein. Je l'ai découvert à 13 ans. C'est-à-dire, toute ma vie, je me suis dit, ouais, là, je ne suis pas intelligent. J'ai pas assez de bonnes notes, je ne suis pas intelligent. Imaginez quelqu'un qui sait pas comment il va se sentir dans sa peau.
Ce que j'ai compris, c'est que on peut pas forcer quelqu'un à apprendre ce qu'il veut pas apprendre. Parce que si tu forces quelqu'un à apprendre ce qu'il veut pas apprendre, c'est sûr qu'il va pas aimer apprendre, donc du coup, il va se laisser aller.
Au début de votre film Château Rouge, Hélène Milano, c'est assez terrible, parce que les enfants que vous filmez, ils ont quelques années de plus que ceux que les enfants qu'a filmé Claire Simon, qui sont encore tout plein d'enthousiasme et voilà, de rêves, d'espoir. Ces adolescents que vous filmez, ils ont 14-15 ans. Et voilà, il y en a un qui dit « j'ai pas de bonnes notes, je suis pas intelligent ».
Mais en fait, c'est très intéressant ce rapport aux notes et à la performance, parce qu'en fait, c'est petit à petit que ce manque de confiance, il se construit en fait, et qu'il y a quelque chose qui se fragilise, alors qu'on sait que effectivement, que ce soit au primaire ou au collège, il y a effectivement beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement, mais cette sanction qui arrive en troisième, c'est encore quelque chose qui vient se vivre comme quelque chose de douloureux. Mais avant, eh bien, il y a des nœuds à défaire sur comment se construit effectivement la confiance en soi, en son parcours, la légitimité à se projeter. Tout ça, c'est beaucoup de choses qui parfois font des nœuds très difficiles à dépasser.
L'école comme espace d'inclusion, de tri, de formation des citoyens ou de formation de travailleurs. On va en parler plus longuement. Je vous propose, Claire Simon, Hélène Milano, de faire un détour par le Sénégal. On va parler d'un des grands noms du cinéma africain et du cinéma mondial, le réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambéty, connu pour Toukibouki, prix de la critique internationale à Cannes en 1973, et puis aussi réalisateur de Yen, aurait eu 80 ans le 23 janvier. Il est mort en 1998 à Paris. Il laisse une œuvre adorée par ses fans. C'est ce qu'a pu le constater à Dakar notre correspondante Juliette Dubois, où elle est allée rencontrer des anciens compagnons de route de Djibril Mambéty, qui se surnomment eux-mêmes les Mambéty Boys.
Bienvenue chez toi.
Comment ça va ?
Ça va, alhamdoulilah.
Sur l'île de Ngor à Dakar, le visage de Djibril Diop Mambéty s'affiche en géant sur les murs. Son nom est écrit sur la pirogue qui traverse le bras d'océan. Ici, c'est son sanctuaire, l'endroit où il aimait venir se ressourcer à l'écart de la ville. Alassane Samb, qui a grandi à ses côtés, se souvient.
Donc, du vivant de Mambéty, tout le monde était là. C'était un peu le refuge, quoi. Ils étaient là les week-ends avec ses amis, tout ça. Donc, ils étaient à écrire, à parler de cinéma, à parler d'art, de culture et tout ça.
Le fils de Djibril, Timour, partage l'amour de ce petit coin calme avec son père depuis l'enfance.
Je me rappelle que ma mère est venue me chercher ici, Manu Militari. Mon cousin Alassane Nassamb était forcé de lui dire où j'étais parce que ça faisait un mois que j'étais là. et mes cheveux étaient devenus oranges entre le sel et le soleil.
Djibril avait créé Cœur Yadikon, une fondation pour les enfants et la nature. Tous les jours, un repas était offert aux petites gens, comme il les appelait. Alassane, le gardien du temple, continue à faire vivre cet héritage. Il organise aussi des expositions et des événements culturels.
On faisait le cinéma itinérant avec Djibril. Il prenait un car rapide, il mettait tous les figurants, tous les gueux, tout ça. On allait à Kolaban, à Tengej. On était partout avec le cinéma itinérant. On arrivait, on déroulait la bâche, on faisait des projections en plein village. Et une fois qu'il est parti, 2 ans, 3 ans après, je me suis dit, bon, ça c'est Djibril, c'est quelque chose qu'il avait vraiment aimé, quoi, le cinéma itinérant. Donc je dis, pourquoi ne pas le recommencer, quoi.
Pour le 80e anniversaire de Djibril, une poignée d'amis et disciples de Mambéty se sont retrouvés. Ils se souviennent des moments partagés avec le cinéaste.
Dans le casting de Yen, tu sais, on avait une suite à l'Hôtel Federm. Enfin,
tu parlais des lieux, mais il y a
des lieux. Aussi.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de son cinéma ? Plusieurs courts et moyens métrages et 2 longs. Pour Baba Diop, critique de cinéma, et Abdoulaye Soumaré, écrivain, une œuvre culte et intemporelle.
Il y a des gens qui ont une vie courte, mais une vie dense, intense. Il y a des gens qui ont une vie relativement longue, mais qui prennent leur temps de faire des films, de faire la création. Je crois que Djibril fait partie de la première catégorie. Il a eu une vie intense.
Et son œuvre est tellement gigantesque, géniale, qu'il n'a besoin de personne pour perpétuer son héritage.
Mambéty est mort avant d'avoir pu terminer sa trilogie Histoire de petites gens et tourner le film Malaika qu'il avait commencé à écrire. Lola Young et son titre Messi. C'est le choix de la semaine de notre réalisatrice Apolline Verlan.
Sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes toujours en compagnie de Claire Simon et d'Hélène Milano pour parler de leurs 2 documentaires respectifs actuellement en salle, Apprendre, tourné dans une école élémentaire, et Château Rouge dans un collège.
Est-ce que tu sais parler ? Fais-moi quelque chose. Bonjour.
Oui.
Voilà. Ah, tu sais parler ! Ah, c'est bien. Et quand on parle, qu'est-ce qu'on fait ? À la place de parler, on tape pas. On dit aux gens, tu m'as fait mal, ou ça se passe pas bien, ou je suis pas content, ou je sais pas quoi. Mais la réponse, quand on n'est pas content, c'est pas on tape. Et moi, si je suis pas content, je peux... Vas-y, je mets une claque, et puis c'est tout. Tu serais content ? Tu trouverais ça normal ?
Non.
Eh bien, ça tombe, ça n'est pas normal. Ici, on met en place des choses pour faire en sorte que les enfants, quand ils ont quelque chose à se dire, ils se tapent pas dessus au premier coup. Bing, comme ça. Ils se parlent. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Camille? Hein?
J'étais assis sur le banc, je l'ai dit de partir parce que j'étais pudique.
Oui.
Et après, je l'ai frappé.
Parce que t'es jaloux qu'elle parte parce que toi tu étais puni, toi tu l'as frappé, c'est ça? C'est ça? Non? Tu sais au moins pourquoi tu l'as frappé ou pas? Donc il faut qu'on trouve ensemble des trucs pour que ça n'arrive plus. Sinon, je peux te punir. Mais à quoi ça sert? Tu progresses pas. Il faut que tu progresses. Il faut que toi-même, tu te dises, ah, j'ai appris plein de choses, des petits trucs qui font que quand j'ai envie de taper quelqu'un, eh bien, j'y vais pas directement en lui mettant une grande claque sur je sais pas où. D'accord? Et ça, il faut qu'on le travaille parce que c'est pas possible que ça dure comme ça.
Un extrait d'Apprendre, votre nouveau documentaire, Claire Simon. Il est formidable ce dialogue. Donc le directeur qui recadre un enfant et on sent bien que apprendre, c'est pas uniquement apprendre le français, les maths, les sciences, c'est aussi apprendre à être citoyen.
Apprendre à être ensemble, oui, et apprendre à parler. J'aime beaucoup quand il lui dit « Ah, tu sais parler, très bien !» Parce que la question de la parole, elle est très importante et elle est tout le temps suscitée, encouragée. C'est ce que, en termes, je sais pas, techniques, ils appellent la médiation. Et ils font tout ça à partir du CM1. Tous les professeurs de cette école, ils lisent chaque jour un chapitre d'une histoire. Et on le voit dans le film avec un extrait du Tour du Monde en 80 jours ou un extrait de la vie d'Artémis. La professeure ensuite, ou le professeur, leur demande de dire, d'écrire des choses pour s'assurer qu'ils ont bien compris l'histoire. Et ensuite, cette partie d'histoire suscite un débat avec une question. Donc, ce qu'on voit dans le film, c'est une question sur la religion. Parce qu'il y a...
Doit-on toujours suivre, en fait, ces préceptes religieux ou
voilà,
la loi?
Ce que la religion exige du voilà, croyant, quoi. Parce que dans l'histoire, un vieux Raja est mort et sa femme, qui a 20 ans, ne doit pas lui survivre. Et de la religion hindoue, on passe en 10 secondes à la religion musulmane. Et voilà.
Du fait des enfants. Hein.
Oui, 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 bien sûr. Et comme dit Khadija, voilà, il est haram ce débat. Il ne faut pas en parler. Si Dieu a décidé que tu meurs, tu dois mourir. Ok, bon, c'est pas... Mais d'autres disent, ah ben non, mais t'as qu'à changer de religion alors. Et puis, on voit peu à peu se dessiner. Alors, il y en a un qui est un acharné, qui veut absolument dire que, que l'islam, c'est que ça, etc. Parce que si tu manges du porc, tu deviens chrétien. Et les filles qui se sentent visées à juste titre par cette histoire disent tout doucement « ça dépend, ça dépend, ça dépend ». Et il y en a une qui dit un truc que je trouve très beau, elle dit « non mais tu comprends ». Alors Wassim dit « mais quoi ça dépend ?» Elle dit « ben tu vois, il y a des gens qui prient et ne croient pas et il y a des gens qui croient et ne prient pas ». Et ce qui est drôle, c'est qu'on rit. Et que les enfants rient. Et donc, l'idée vraiment est, il faut absolument arriver à penser quelque chose et à le dire.
Et à penser par soi-même.
Voilà, à penser par soi-même et à être capable de débattre pour penser mieux, penser plus, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans toutes les classes, quoi. Et ce que disent les professeurs et le directeur, c'est, ces enfants n'ont pas un background, enfin, leurs parents galèrent beaucoup, etc. Et donc, ils n'ont pas les assises de, par exemple, de plein d'enfants parisiens ou de milieux plus bourgeois. Et donc, ils ne vont pas au musée, ils n'ont pas, ils leur manque une assise culturelle. Et la seule chose qui peut les sauver, c'est de parler et de penser. Et voilà, c'est ce à quoi s'emploie toute l'école, quoi. Et c'est assez impressionnant.
Et c'est aussi une dimension, donc le pouvoir de la parole, la réflexion personnelle, le rapport à l'art que l'on trouve aussi dans votre documentaire Château Rouge, Hélène Milano.
Bonjour, aujourd'hui, Cyrine et moi allons vous présenter l'œuvre de Francis Bacon. C'est un autoportrait qu'il a réalisé en 1976. Francis Bacon, il est né à Berlin. Non, il est né en Irlande.
C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, c'est de l'oral. On peut parfaitement se tromper et se reprendre. C'est pas de l'écrit. Donc à l'oral, on se reprend. Il n'y a aucun souci. Tout va bien, Léna.
Comme on peut le voir dans cette œuvre-là, c'est à peu près pareil. Genre, il fait pas des visages normaux. Il fait tout le temps des visages déformés avec des couleurs qui peuvent faire... Enfin, par exemple, le rouge, là, il fait penser au sang et tout. Du coup, on peut faire un lien avec tous les traumatismes qu'il a eus. Ou dans celle-là, quand on voit différentes silhouettes de visage. Et c'est pas des autoportraits normaux pour moi, parce qu'il se dessine pas comme lui, il est. Il se dessine comme lui, il se ressent, enfin, comme les sentiments qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Et du coup... À la fin, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette œuvre.
Là, on est donc à un cours de préparation, j'imagine, à l'oral, du oui. brevet. Et là, la professeure de français avait donné comme consigne, parce qu'il y a d'autres extraits, à des groupes d'élèves de préparer sur un autoportrait de peintre. Là, donc, c'est un autoportrait de Francis Bacon. Et Léna, je la trouve exemplaire, parce qu'elle elle décrit vraiment ce qu'elle a ressenti. Ce n'est pas lu forcément sur Internet. Enfin, et c'est assez intéressant sur le pouvoir de la parole, justement, le rapport aussi à l'art et à la réflexion personnelle dans cet extrait-là.
Oui, après, de façon générale, c'est vrai que... La question du statut de la parole, que ce soit dans une institution ou que ce soit dans comment rendre confiants tous les enfants dans les immenses talents qu'ils ont, parce que les jeunes des quartiers populaires, il y a une forme de dextérité, beaucoup d'aisance. Parfois, ils manient très très bien l'humour, ils sont extrêmement performants. Mais comment traduire ça et être confiant dans une institution beaucoup plus normée.
Beaucoup plus académique.
Beaucoup plus académique. Et là, il s'agit vraiment, pour les professeurs, souvent, de leur dire « Mais tu as un talent immense à cet endroit-là, prends-le et resserre-le dans une autre forme. » Et c'est vrai que là, Léna, elle avait elle s'était vraiment appropriée le sujet. Elle a vraiment été chercher les correspondances entre ce qu'elle ressentait, elle, et comment elle voyait le tableau. Donc là, ça rejoint aussi dans le film Apprendre, le petit garçon, quand on le voit, qui compte sur ses doigts. Tout ce processus qu'on voit dans les yeux, comment ça se construit, le fait de réussir quelque chose, d'être fier de ce qu'on a fait, comment il cherche. Alors, évidemment, il est accompagné. Mais ça, pour moi, c'est de toute beauté, parce qu'en fait, on les voit, on voit le désir et l'appétit.
Et... En ce qui concerne votre dispositif, Hélène Milano, parce que vous avez tourné en classe, vous avez tourné aussi dans les moments d'interclasse, comme Claire Simon aussi à l'école, mais vous filmez aussi des élèves qui s'adressent face caméra ou qui disent des textes, je crois que c'est de Virginia Woolf. Vous avez donc un dispositif à plusieurs étages.
Oui, en fait, au début, je voulais que le film soit construit essentiellement autour du cinéma direct, donc ce temps qui avance, qui est vraiment un temps inexorable vers l'échéance. On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas retenir le temps. On est obligé de grandir, on est obligé de passer.
Là, l'échéance, c'est le brevet des collèges en fin de troisième.
Et l'affectation des lycées. Donc, ce temps aussi qui est propre à l'adolescence de tous les possibles, etc. Et je voulais aussi mettre en place une petite troupe. Donc, ça a été sur la base du volontariat. Et il y a eu une vingtaine de gamins des 4 troisièmes qui se sont inscrits dans ce processus. On se retrouvait tous les mardis. Et puis, plus j'avançais dans le tournage, plus j'ai eu l'impérieuse nécessité de les entendre. Parce que même s'ils sont jeunes... En tant que sujet, ils ont quelque chose à dire sur ce qu'ils vivent. Ils ont quelque chose à dire sur le système tel qu'ils le ressentent. Et comme ce sont des jeunes gens qui sont le plus souvent stéréotypés, caricaturés, invisibilisés, pour moi, c'était vraiment le troisième pied sur lequel je voulais construire ce film.
Moi, j'ai vu le film et j'ai trouvé que ce que disaient les jeunes gens était très émouvant et très fort, mais parce qu'ils sont face à un énorme problème. Et qu'ils sont... c'est surtout cette déception de se rendre compte qu'à la fin de la troisième, c'est fini. Ils ne pourront plus tout apprendre. Ils ne pourront plus... La porte va se refermer. Et ça, c'est très émouvant dans votre film. C'est très terrible, quoi. Parce que, à l'inverse, dans l'école que j'ai filmée, il n'y a que de l'ouverture. On est tout le temps dans l'idée que... Le
tout
professeur ouvre toutes les portes, pour les enfants et que rien ne va les arrêter, quoi.
Effectivement, il y a sans doute un effet du montage, Hélène Milano, mais il est vrai qu'en troisième, on a l'impression que ces enfants sont pas acculés, peut-être. À chaque fois, on leur parle de leur orientation. Est-ce que c'est en seconde générale? Il y en a qui rêvent de la seconde générale, mais qui ne pourront pas. Après, c'est CAP, bac, lycée professionnel, lycée technique. Et on leur parle sans cesse de cette échéance.
Mais je crois qu'il faut aussi mesurer la pression. Quand je parlais d'une violence systémique qui s'abat sur les enfants, au moment de la sortie de l'enfance, donc dans un atterrissage dans le réel, avec toute la conscience qu'ils commencent à avoir très aiguë des différentes violences qui sont dans notre société. Ils ne sont pas du tout dans une naïveté. Ils voient, ils ont les yeux grands ouverts. C'est vrai qu'il y aura toujours des parcours d'exception, c'est-à-dire d'enfants qui sont de milieux très défavorisés, qui vont avoir des parcours d'excellence. Et souvent, on me dit « Ah oui, mais ils existent, il ne manquerait plus que ça ». Heureusement qu'effectivement il y a ces parcours d'excellence. Et il y a aussi, heureusement, les enfants qui ont un désir très précis, très clair, avec j'ai envie d'être cuisinier, j'ai envie de faire de l'artisanat d'art, j'ai envie d'être carrossier. Et là, on voit qu'ils sont en réussite quand ils vont en lycée professionnel. Ce qui est beaucoup plus douloureux, c'est tous ceux qui ont la sensation de n'avoir pas eu le temps. Peut-être que ça arrivait juste un petit peu trop tôt, que la question de la normalisation sur les notes fait une barrière qui fait que c'est effectivement là, tout de suite, maintenant, qu'il faut se déterminer. Et que là, ça peut être d'une très grande violence et souffrance.
Ce qui est frappant aussi, c'est de voir, il y a plusieurs garçons dans votre film pour qui le rêve ou l'échappatoire possible, ce serait le football.
Mais oui, mais comme beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors, beaucoup d'enfants sont aussi très conscients des difficultés économiques avec lesquelles se battent leurs familles, leurs parents. Des fois, il y en a qui ont le papa qui va travailler 3 mois dans un autre pays ou la maman qui est restée, etc. C'est des choses qu'ils connaissent très bien et on vit dans une société qui renvoie énormément à la question de l'argent. C'est vrai que on voit ça partout, c'est quand même un étalon de mesure, on est dans une société de consommation et qu'on a plein d'autres choses à construire, mais n'empêche que ça, ils le prennent de plein fouet. Donc le foot, c'est à la fois l'expression de talent et puis c'est aussi la possibilité de sortir d'une situation où non seulement ils ne se projettent pas dans des métiers où les corps sont parfois cassés, où c'est des métiers durs, et puis aussi, il y a plein d'autres métiers d'artisanat d'art, par exemple, qu'ils ne connaissent pas. Donc tout ça, ça fait un ensemble hyper anxiogène pour eux, en fait.
Oui, le foot à Makarenko, ça reste aussi quelque chose dont les garçons rêvent, oui. Ils ne se projettent que dans des histoires, à part le foot, quoi. À cet âge-là, leur imagination est très grande et ils sont tout le temps pris par ça. Ils sont pas encore prévenus de ce qui risque d'arriver et de cette terrible fermeture, quoi, qui est. Moi, ça m'a bouleversée, ce truc-là, quoi. J'ai l'impression que ces jeunes gens se disent « Merde, mais j'aurais pas dû du tout déconner, j'aurais dû... »
Mieux travailler,
etc. Et puis, ils savent pas faire face à leurs émotions et tout. Ce qui est ce sur quoi travaille le plus l'école Makarenko, c'est-à-dire comment arriver à contenir ses émotions, à les expliciter, à les partager et à ne pas en être la victime, quoi. C'est vraiment le tout le temps le sujet des discussions, le sujet que prennent les professeurs avec les élèves. Et même, c'est très drôle parce que les enfants dans la cour, ils l'utilisent aussi dans leur jeu, quoi. Ils disent, il faut que ce que tu dis, ça soit la vérité. Hein.
Est-ce que vous avez justement trouvé... Alors bon, c'était une école maternelle dans Récréation, on était en 92, mais vous avez trouvé qu'il y avait
Non, mais ça change tout. L'école maternelle, c'est l'école de la poésie, quoi. Les enfants, entre eux, ils répètent, ils essayent de se préparer au monde. C'est très différent. Extrêmement différent. Tandis que les enfants que moi j'ai vus à Makarenko, dans une école élémentaire, ils connaissent le monde. Et justement, à l'inverse de l'école maternelle, l'école est un refuge, est un endroit où tout le monde est égal, où on peut résoudre des questions que souvent à la maison on ne peut pas résoudre. Alors que moi, j'ai fait Récréation parce que la première fois que j'ai vu la cour et ma fille qui devait aller dedans, je me suis dit, si elle s'en sort là, elle s'en sortira partout, quoi. La maternelle, c'est vraiment Moi, j'avais l'impression de voir des poètes devant moi.
Quand tu commences à grandir, tu commences à comprendre un peu les problèmes de famille, les problèmes de la vie. Tu te rends compte que peut-être t'as pas grandi comme d'autres enfants ont grandi. Où tu dis, ah ouais, lui, il a eu une enfance comme ça, moi, j'avais pas eu cette enfance et tout. Du coup, tu comprends un peu le pourquoi du comment t'es pas comme les autres.
Je vois un peu comment c'est compliqué de vivre en société. Et de voir qu'on n'est pas tous pareils. Parce qu'avant, je me disais que tout le monde est égal et qu'il ne nous arrivera rien. Mais en fait, on est plutôt pas égalisés de la même façon.
Voilà, on est avec les collégiens de Châteaurouge, Hélène Milano. Ils ont il y a une gravité, mais aussi une grande lucidité et conscience de classe, en tout cas des différences et du déterminisme social.
Oui, ils sont très impressionnants par cette acuité. Et ce qui est très intéressant là aussi, c'est la conscience de la différence entre l'égalité et l'équité. En fait, si on veut construire de l'égalité, il faut de l'équité. Et l'équité, ça veut dire donner beaucoup plus à ceux qui ont moins. Et là, la force de ce collège-là, et c'est pour ça aussi qu'ils se sentent très bien, comme dans un cocon, et que c'est encore plus difficile d'en sortir, c'est qu'il y a une équipe, justement, qui est extrêmement engagée dans le fait de se passer la balle, d'accompagner telle ou telle problématique, la problématique du logement, la problématique de la santé, pour qu'ils soient en capacité de construire aussi et de combattre ces obstacles-là. Et l'équité, c'est vrai que, heureusement, comme on est en REP+, il y a un peu plus d'adultes. Donc, il y a l'assistante sociale est à plein temps, et l'infirmière est à plein temps. Mais il manque encore des adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, Violaine qui s'occupe et qui est à la fois psychologue et à la fois conseillère d'orientation, elle est sur plusieurs établissements. Et là, dans un établissement comme ça, c'est vrai qu'il faudrait 2 ou 3 personnes parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de travail pour qu'effectivement, on construise de l'équité et que ça puisse produire de l'égalité.
Oui. À Makarenko, donc votre école élémentaire, si je puis dire, Claire Simon, c'est aussi une école REP+.
REP.
Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de moyens. Est-ce que les classes de CP sont dédoublées peut-être?
Oui, voilà, les classes de CP et de CE1 sont dédoublées. Il y a une psychologue, il y a pas d'infirmière, mais il y a une classe pour les enfants handicapés, une classe Ulysse. Et effectivement, il faut donner plus. C'est tout à fait vrai. Il faut donner plus. Ce que moi j'ai vu, c'est que tout ce que on dit sur les réseaux sociaux est faux.
Vous voulez dire sur l'état de l'école, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, c'est faux de A à Z. Et moi, j'ai tourné pendant les émeutes à propos de la mort de Naël. Et le ministre de l'Intérieur disait que c'était de la faute des parents. Moi, je voyais des parents qui étaient là tout le temps, qui étaient là le matin, à midi, le soir, qui sont vachement engagés dans l'école et qui savent que l'école, c'est le Graal pour les enfants et qu'il faut absolument que les enfants soient bien dans l'école et réussissent et comprennent et apprennent, etc. Donc, on disait, par exemple, moi, la première fois que je suis montée en classe, j'entends les infos et tout, voilà, alors on dit les racailles en banlieue et tout, et le professeur Mohamed, il a dit... Comme ça, hein. Il y a trop de bruit là. Et tout le son est descendu d'un coup. Et voilà, c'est-à-dire c'est tout le contraire. Les enfants, ils n'avaient qu'une envie, c'était d'apprendre, c'était d'essayer de comprendre, de comprendre pourquoi ils ne comprenaient pas. Et voilà, c'est très important que les gouvernants se rendent compte qu'il faut absolument que l'école, et surtout dans les quartiers défavorisés, soit le plus aidée possible, parce que c'est l'école qui fonde la société, c'est tout. C'est-à-dire que c'est l'école qui est le ciment de la ville. Moi, je l'ai vu quand le carnaval se balade dans la ville. Tout d'un coup, tout le monde a l'impression de faire partie d'une communauté qui est liée à une institution. C'est hyper important. Et puis, quand on voit, voilà, il y a une classe Ulysse, il y a des enfants autistes qui attendent depuis 5 ou 6 ans d'aller dans un IME.
Un institut médico-éducatif.
Voilà, dans lequel, aujourd'hui, faute de moyens, il n'y a plus de médecins, ni voilà. Donc, comment on se rend pas compte que l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'il y a de plus important, que si on veut que l'avenir soit à peu près possible, il faut, c'est les enfants dont il faut s'occuper le plus. Enfin, il faut mettre tout le paquet sur les enfants, mais vraiment tout le paquet sur les enfants, sur les jeunes gens, parce que c'est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de racaille, comme on dit. C'est évident.
On combattra la violence par l'éducation.
Moi, quand je suis arrivée, le directeur m'a dit, ah, j'ai dit, bah, et puis s'il y a des bagarres, je filmerai et tout. Il m'a dit, pas de bol, on a baissé la violence de 80% dans la cour. Voilà, par la médiation, etc. Donc, voilà, ces gens, les instits, les professeurs des écoles que j'ai filmés, j'en ai filmé 7 sur 23 dans cette école, c'est dire que c'est une très grande école. Il y en a 5 qui avaient un autre métier avant, qui ont fait ça par conviction, par volonté, par désir, d'essayer de donner des armes, d'apprendre le langage à des jeunes enfants qui vont l'avoir pour eux toute leur vie, quoi.
Alors, il y a un très beau programme à Makarenko, mais qui en même temps peut susciter, quand on voit la séquence, quand même, une forme de violence, voilà, de violence de classe. Donc, c'est ambivalent, en tout cas, Claire Simon, en tout cas, ce que j'ai éprouvé, moi, en regardant Apprendre et ce passage.
Les élèves se sont vus à l'école alsacienne, puisque les élèves de l'école alsacienne ont fait visiter leur école aux élèves d'Ivry au moment des répétitions de Schubert. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent jouer ensemble, passer un moment ensemble.
Edgar, Elia, Prudence, Johan, Baptiste, R, Baptiste A, Léonard, Adrien, Sophia, Ava, Lisée, Célina, Théo, César, Rebecca, c'est bon.
Moi, je suis pas pianiste et je suis considérée comme pianiste.
Tu es considérée comme pianiste.
Moi, je pense que je vais jouer, mais j'ai
moi, non, moi, mais...
Quand des élèves de l'école alsacienne, donc école ô combien bourgeoise, élitiste de Paris, se rendent à Ivry-sur-Seine, à Anton Makarenko, pour jouer avec les enfants. Bon voilà, le résultat n'est pas forcément, d'un point de vue musical, adapté. Et on va demander aux élèves de Makarenko de laisser jouer les pros, on va dire. Donc, ce qui est quand même assez un beau programme et en même temps un peu violent, Claire Simon.
Oui, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, c'est un projet du directeur qui avait accueilli les talents lyriques. Ça s'est fait avec eux. Et il faut dire quand même que chaque enfant de CM1 avait son instrument et pouvait l'emmener chez lui. Voilà, donc il y a une tentative ça a duré 3 ans. Il y a quand même eu 3 enfants qui se sont inscrits au conservatoire à la suite de ça. Mais moi, j'ai vu, évidemment, la lutte des classes. On est obligé de voir ça. Et l'admiration un peu douloureuse qu'on peut avoir en voyant l'aisance de celle qui joue Chopin, etc. C'est aussi un autre monde qui se révèle. C'est-à-dire qu'ils sont là, dans les classes, ils se voient. C'est pas des gens très loin, etc. Ils sont là, face à face.
Mais par le jeu du montage aussi, c'est un peu vous qui avez le dernier mot, Claire Simon. Donc vous, pour le film, je pensais... Bien sûr que ça s'est passé comme ça, non, c'est pas du tout... Mais je veux dire, le film s'achève en partie avec l'interprétation de Diamonds de Rihanna, où il y a tous ces beaux portraits d'enfants, voilà, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Voilà.
Et qui est pleine de vie et qui...
Oui, parce que c'est leur culture et que la truite de Schubert, c'est pas leur culture. Ils chantent super bien en anglais avec une passion totale, etc. J'ai eu l'impression que Diamond, c'était la réponse à la truite de Schubert, quoi. Voilà.
Hélène Milano, Claire Simon, vous continuez à prendre des nouvelles, à avoir des nouvelles des enfants, des adolescents que vous avez filmés.
Ah oui, oui, ben là, on sort le film et tous les professeurs viennent avec nous, avec moi, présenter le film ou débattre. Et d'ailleurs, c'est merveilleux parce que pour eux, c'est quand même une manière de raconter leur travail et de voir que... Parce que le cinéma produit quelque chose, c'est indépendamment de nous. Le cinéma reconnaît. Voilà.
On les regarde.
Oui, leur histoire est intéressante. Et que ce soit de la fiction ou du documentaire, c'est la même chose. Le cinéma reconnaît. Et les enfants ont vu le film au Luxi à Ivry, les parents aussi, et les enfants étaient extrêmement fiers. Et moi, ça m'a bouleversée, et j'ai compris ça, quoi. C'est-à-dire, en plus, c'était les élections, quand ils ont vu le film, avec tout ce qui se disait et tout. Ben, eux, ils ont compris que... ils étaient reconnus par le cinéma. Et c'est une belle chose, quoi.
Et vous, Hélène Milano ?
Oui, il y a eu plusieurs étapes. Donc après, effectivement, il y a eu une première projection cocon avec les enfants et les adultes qui sont dans le film. Et puis après, bah, il y a tout un chemin, puisque effectivement, Bilal, je l'ai accompagné sur un projet potentiel de théâtre qui finalement ne s'est pas fait, mais on a été ensemble à l'audition, etc. Après, Léna et Marois sont venus au 104 à Pantin la dernière fois en présence du public, et puis du coup c'était très beau parce que le public leur a manifesté combien le fait qu'elles soient capables d'exprimer toute cette fragilité de l'adolescence, toute cette profondeur, ben c'était leur force. Et ça, ils reçoivent aussi beaucoup de ce qui se passe là. Le film est vu, il est en salle, c'est des très beaux moments et c'est forcément une histoire qui se continue.
Merci beaucoup Claire Simon, Hélène Milano. Vos deux documentaires Apprendre et Château Rouge sont actuellement en salle en France. On parle du Festival du cinéma indépendant américain de Sundance juste après cette nouveauté musicale, Syracuse signée Voyou, un des titres de la playlist de RFI.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais. Voir le
part non pas à Hollywood, mais à Park City, dans l'état montagneux de l'Utah. C'est là que bat cette semaine le cœur du cinéma indépendant américain. Le festival de Sundance, rendez-vous incontournable pour les cinéastes en quête de reconnaissance, célèbre sa 41e édition. Ici, des grands noms comme Quentin Tarantino, Wes Anderson ou les frères Coen ont fait leur début. Alors, à l'affiche cette année, une centaine de films, documentaires et fiction, une centaine de films qui ne ressemblent en rien à ceux produits par les grands studios hollywoodiens. C'est un laboratoire d'innovation cinématographique où le public et les critiques découvrent des voies audacieuses, mais cette édition pourrait être l'une des dernières de ce festival iconique. Denis Strelkov, notre confrère de la rédaction russe, y est parti en reportage.
Dans le froid et sous la neige, à quelques pas des remontées mécaniques, les réalisateurs du monde entier se retrouvent au festival de Sundance. Présentation film ici, c'est le rêve de ces cinéastes indépendants, pour la plupart encore inconnus du grand public. La concurrence est rude, plus de 15 000 films ont été envoyés cette année, et pour se faire connaître, le seul mot d'ordre, surprendre et expérimenter. Les journalistes comparent ce festival à la pêche, on ne sait jamais ce que l'on va découvrir, tandis que les producteurs le voient comme une chasse aux nouveaux talents. Tout le monde s'y retrouve pour nouer des contacts utiles, explique Steve Ramsey, un critique de cinéma venu de San Francisco.
J'aime beaucoup le fait que tous les films aient cet esprit indépendant, mais ce qui compte avant tout, c'est cette ambiance incroyable, comme si le festival était organisé par nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'est très facile de rencontrer des gens unis par la passion du cinéma. On peut en parler avec tout le monde. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas pouvoir tout voir.
Sur les écrans cette année, il y a de tout. Des histoires ordinaires comme celle d'une adolescente qui passe l'été chez ses grands-parents au bord d'un lac et qui combat sa solitude dans Some Fish and Other Stories on the Green Lake, un premier film de Sierra Falconer. Mais pour ceux en quête des scénarios plus audacieux, il y a Blake News, Terms and Conditions, un docu-fiction engagé de Khalid Joseph. Le film explore l'héritage afro-américain à travers le voyage d'une journaliste embarquée à bord d'un vaisseau transatlantique futuriste à la recherche d'œuvres d'art disparues. Du côté du documentaire, les sujets politiques sont à l'honneur. On retrouve notamment Coexistence Maes d'Amber Fairs, un film complexe, audacieux sur militantes pro-palestiniennes, ou encore 2000 mètres to Andriivka de Mstislav Chernov, un drame de guerre sombre et courageux réalisé par le cinéaste ukrainien qui a déjà remporté l'Oscar en 2024. Concernant la Russie, Mr. Nobody Against Putin attire l'attention cette année sur la propagande dans le système éducatif du pays. Un professeur, Pavel Tanakin, a filmé clandestinement comment les militaires remplacent les enseignants. Son co-réalisateur, David Bernstein, l'a aidé à fuir avant la première du film.
Pacha m'a contacté et m'a demandé de l'aider avec son film. J'ai travaillé sur ce documentaire même si je ne suis jamais allé en Russie. Car il me semblait essentiel de raconter cette histoire. J'ai vu en lui quelqu'un de passionné et engagé pour la vérité. Il m'a beaucoup inspiré.
Cette année, le festival de Sundance est l'un des derniers dans ce format. C'est presque officiel, d'ici quelques années, il quittera Park City, la ville préférant accueillir des vacanciers skieurs, bien plus rentables économiquement. La future localisation du festival reste à déterminer, mais une question demeure, est-ce qu'il va survivre à ce déménagement? Rien n'est moins sûr, selon la presse américaine.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Apolline Verlon. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Nous serons en direct de la Bibliothèque nationale de France pour parler de l'usage, des enjeux, des limites ou des dangers de l'intelligence artificielle dans le 7e art. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.